RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit. La criette du Bénin prononce de lourdes condamnations au procès Boko Omeki.
Oui, 20 ans de réclusion en l'occurrence pour cette suspicion de tentative de coup d'État au mois de septembre dernier. Et une amende stratosphérique, 64,5 milliards de francs CFA, correspondance à Cotonou dans une minute. Le président tchadien Mahamat Déby récupère la base d'Adji Kossey aujourd'hui, la dernière que les soldats français ont de fait rendue hier à leurs homologues du Tchad. Au Mali, 2 mois de blocus autour de la ville de Léré, carrefour du centre à la frontière mauritanienne, mais que les djihadistes du Jnim bloquent depuis la fin du mois de novembre.
Depuis le dossier de ce journal, des milliers de Sénégalais se pressent pour travailler en Espagne.
Oui, contrat saisonnier pour aller travailler dans des exploitations agricoles, mais l'engouement est tel que les autorités de Dakar ferment les demandes papier, physique pour ces contrats. Désormais, tout doit passer exclusivement sur Internet.
De lourdes condamnations au Bénin dans la suspicion de coup d'État.
Olivier Boko et Oswald Omeki écopent donc de 20 ans de réclusion. Reconnus coupables d'avoir fomenté un putsch contre le président Patrice Talon, ils avaient été arrêtés à la fin du mois de septembre dernier. Roch Nyeri, beau-frère d'Olivier Boko, poursuivi lui aussi, est visé désormais par un mandat d'arrêt international. Il était jugé en son absence. La justice prononce aussi des montants records entre l'amende et les dommages et intérêts. 64,5 milliards de francs CFA, soit quasiment 100 millions d'euros. 3 acquittements, enfin, ont été prononcés dans cette audience que suivait Jean-Luc Aplogan.
La Cour, dans son verdict, les déclare coupables de complot contre l'autorité de l'État, de corruption, de faux et d'usage de faux. Un peu plus tôt, le ministère public affirmait que l'argent retrouvé au domicile de l'ancien ministre au moment de son interpellation a été mobilisé par Olivier Boko et son beau-frère. Le réquisitoire accuse l'ex-membre du gouvernement d'avoir acheté le chef de la garde présidentielle par une générosité exceptionnelle et inhabituelle. Toujours selon le procureur, il agit c'est pour Olivier Boko. Oswald Omeki propose à la Cour de visionner les images enregistrées par ses caméras de surveillance le jour de son arrestation pour découvrir la vérité. L'accusation est cousue de fil blanc, proteste Olivier Boko qui raconte « J'étais au Maroc quand mon grand frère, le président Talon, m'a demandé de rentrer. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, il me téléphone et me demande de venir le voir. Je m'y rendais quand on m'a arrêté. Si je préparais quelque chose, je n'aurais pas répondu à ces invitations. Un jour, on reparlera de ce procès. » Fin de citation. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La diplomatie en marche tous azimuts autour de la République démocratique du Congo face à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. La SADC, la communauté de l'Afrique australe, doit se réunir aujourd'hui. Elle déploie des troupes dans la province du Nord Kivu et plusieurs soldats, notamment sud-africains, sont morts ces derniers jours. La Belgique demande à l'Union européenne d'envisager les sanctions contre le Rwanda. Londres menace de son côté de réexaminer ses aides à destination de Kigali. La France, enfin, dépêche le chef de sa diplomatie sur place. Jean-Noël Barrot est en ce moment dans la capitale rwandaise. Il doit rencontrer Paul Kagame ce matin. Il a commencé par Kinshasa hier, Pierre Firsion, où il s'est entretenu avec le chef de l'État.
Le président congolais a fait part à Jean-Noël Barrot de son analyse de la situation dans l'Est, puis lui a réitéré ses regrets suite à l'attaque mardi contre l'ambassade de France à Kinshasa. Une rencontre qui a duré un peu plus d'une heure. Le ministre français des Affaires étrangères s'est ensuite envolé pour Kigali, où il a passé la nuit. Ce vendredi matin, il doit s'entretenir avec Paul Kagame. Quelle sera la teneur de son message? Selon son entourage, Jean-Noël Barrot va demander le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Cette demande avait déjà été formulée samedi par Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique avec le président rwandais. Mais depuis, il y a eu cette offensive éclair du M23 et des troupes rwandaises sur Goma. Paris semble désormais vouloir hausser le ton. Jeudi, Christophe Lemoyne, le porte-parole du Quai d'Orsay, a appelé les forces rwandaises à, je cite, « quitter instamment la République démocratique du Congo » et le M23 à se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. Fin de citation. Et le porte-parole du Quai d'Orsay d'ajouter « la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables ».
Pierre Firsion, j'ajoute ces déclarations du porte-parole du secrétaire général adjoint des Nations Unies qui s'est dit très inquiet de la situation volatile cette fois dans la province du Sud Kivu, à côté du Nord Kivu donc. Stéphane Dujarric qui fait part d'informations, je le cite, crédibles de l'avancée du groupe armé du M23 vers la ville de Bukavu. Il n'y a plus ou quasiment plus de soldats français au Tchad. Ne reste que quelques officiers qui doivent quitter le pays aujourd'hui. N'Djamena récupère formellement tout à l'heure la dernière base dont les clés lui ont été rendues hier, la plus importante qu'occupaient les soldats français dont les derniers ont donc quitté le Tchad ces dernières heures. Le camp Kossaï, situé dans la capitale. Le président Mahamat Déby est attendu dans un peu plus d'une heure pour une cérémonie officielle. Cette rétrocession marque la fin de plus d'un siècle de présence militaire française à travers le Tchad. Hier, d'ailleurs, lors d'une cérémonie entre galonnés, certains ont fait savoir qu'ils se quittaient bons amis. Réaction choisie aussi chez les N'Djaménois.
Je ne suis pas satisfait du départ de l'armée française. Parce que vous voyez, on peut revoir les accords. Il y a des anomalies dans les accords, datés depuis 1960. Maintenant, le départ de l'armée française, il y aura une conséquence. Parce qu'une fois que l'armée française quittera, il y aura la rébellion qui va être déclenchée et qui va fournir des informations pour l'armée tchadienne.
Moi, je suis très ravi et moi, je suis parfaitement d'accord pour le départ de l'armée française au Tchad. Nous pouvons gérer notre pays, nous avons de l'armée, nous avons des autorités. Nous, on peut gérer de notre pays sans les Français. 60 quelques années, c'est trop.
Il n'y a pas de problème entre le peuple français et tchadien. Et nous sommes des amis, nous sommes des frères, on fait ensemble, on fait tout ensemble. Mais en tant que l'armée française quitte le Tchad, moi je suis d'accord. C'est l'indépendance. C'est maintenant qu'on a eu l'indépendance.
La réaction dans les rues de la capitale tchadienne avec Nadia Ben Mahfoud.
Léré, dans le centre du Mali, à 60 km de la frontière mauritanienne, 26 000 habitants et plus de 2 mois de blocus terroriste.
Oui, c'est là que l'on continue notre journal. Ainsi, on a décidé le JNIM, groupe dit de soutien à l'islam et aux musulmans. C'était le 29 novembre dernier. La ville est sous cloche. Pour y entrer ou pour y faire entrer des marchandises, il faut savoir à qui l'on peut éventuellement tenter de graisser la patte. Léré étant habituellement une ville de transit particulièrement fréquentée. Aujourd'hui, elle se désole aussi du silence total des autorités de transition. Le récit de David Bachet.
Aucun camion de marchandises, aucun car de transport ne passe. Selon plusieurs ressortissants de Léré et notabilités de la région de Tombouctou, le blocus demeure total. Une vidéo transmise à RFI montre des rues quasi désertes, de nombreuses boutiques fermées. Il n'y a pas de riz, pas de viande, pas d'huile, pas de pâtes, déplore celui qui filme. Il n'y a rien. Les populations se nourrissent grâce au stock de certains commerçants et dans une moindre mesure à la contrebande qui permettrait de faire passer quelques marchandises d'Algérie et de Mauritanie en payant les djihadistes du JNIM. Ce qui n'empêche pas une raréfaction des produits et une explosion des prix. L'armée n'a jamais approvisionné la ville, déplorent plusieurs sources. Lors du blocus très médiatisé de Farabougou, 2 mois après le coup d'état militaire d'août 2020, l'armée avait mis en scène le transport de denrées alimentaires par hélicoptère avant de mener une opération dite de libération. Assimi Goïta, à l'époque colonel et vice-président de la transition, s'était personnellement affiché devant les caméras. Sollicité par RFI, ni l'armée malienne ni le gouvernorat de Tombouctou n'ont donné suite. Ils ne se sont jamais adressés aux populations sur le sujet, confirment plusieurs sources, qui dénoncent une omerta et un aveu d'impuissance.
David Bachet, dont vous pouvez retrouver un tableau plus complet de ces 2 mois de blocus autour de la ville de Léré sur notre site rfi.fr. Le centre du Mali, encore un peu moins de 300 km au sud, cette fois dans la région de Ségou. Les FAMA, l'armée malienne appuyée par des chasseurs traditionnels d'Ozo, sont soupçonnés d'une série d'exactions il y a de cela 3 jours. Plusieurs sources locales indiquent qu'une 20aine de personnes ont été tuées lors du passage d'une patrouille dans plusieurs villages des communes de Bokiwere et Moninpebougou. Des têtes de bétail, des greniers et des maisons ont aussi été incendiées. Abdoulaye Diko, plusieurs personnes sont enfin toujours portées disparues.
L'armée malienne et les chasseurs d'Ozo sont arrivés à Kabambougou vers 10h mardi dernier. Ils ont incendié des maisons et des greniers. 2 personnes ont été arrêtées. Le corps de l'un retrouvé dans la journée à quelques kilomètres du village et l'autre est toujours porté disparu. Ensuite, les militaires maliens et les Donzo sont passés par les villages de Djarakala et de Bokaribougou, toujours dans la commune de Bokiwere. Au total, 13 personnes tuées dans ces villages, des maisons et du bétail incendiés. La patrouille de l'armée a fini sa journée à Moninpebougou, une autre commune du cercle de Massina, où plusieurs personnes ont encore été tuées ou sont portées disparues. Les chiffres varient selon les sources. Ils ont arrêté mon frère et incendié ma maison, raconte une victime. Mon frère est toujours introuvable. La plupart des villageois ont fui en brousse parce qu'ils ont peur, confie une autre source, peur d'être tués. Un responsable d'Onzo de la zone assure n'avoir aucune information. Mais s'il y a eu des morts, ce sont forcément des djihadistes, insiste-t-il pourtant. Une source sécuritaire malienne confirme sans détail le bilan et attribue la responsabilité de ces actes aux chasseurs d'Onzo. Sollicité par RFI, l'armée n'a pas commenté ces accusations.
Abdoulaye Diko. En Ouganda, les autorités sanitaires annoncent la mort d'un jeune infirmier infecté par le virus Ebola. Plusieurs laboratoires confirment qu'il s'agit de la fièvre hémorragique. Kampala émet plusieurs mesures d'urgence pour identifier les cas contacts. Et sur le front sanitaire toujours, une bien meilleure nouvelle venue de Guinée. La maladie du sommeil, transmise par la mouche tsetse, a été éliminée dans le pays en tant que problème de santé publique. C'est ce que dit un communiqué conjoint signé notamment par l'Institut de Recherche pour le Développement. Seuls 12 cas de cette fièvre ont été diagnostiqués dans le pays en 2024.
L'Espagne propose 370 postes temporaires d'ouvriers agricoles. Plus de 10 000 Sénégalais se lancent dans les procédures. Et c'est le dossier de ce journal.
Oui, l'idée c'était en effet d'accorder un peu moins de 400 visas de travail pour au moins 3 mois pour faire les saisons dans les différents secteurs agricoles espagnols. Sauf que les bureaux ouverts à travers le Sénégal pour les candidats ont été tellement pris d'assaut qu'en à peine 24 heures, les autorités ont annoncé qu'il fallait désormais tout faire sur Internet. Reportage d'abord à Dakar avec Léa Lisa Westerhoff.
Des formulaires remplis sur un bout de trottoir. Devant l'agence régionale de développement de Dakar, ils sont plus d'une centaine ce jour-là, comme Baye, 25 ans, venu
pour travailler en Espagne.
Tenter sa chance pour un visa de saisonnier agricole en Espagne est une évidence pour ce vendeur de fripes.
Au Sénégal, il n'y a pas de travail. Quoi.
Moustapha, 38 ans, lui aussi, vient de candidater pour être ouvrier agricole et ce malgré son travail de commercial.
Ah oui, bien sûr, j'ai déposé comme voilà, tout jeune, ambitieux. Vous savez, le salaire minimum au Sénégal n'est pas si... Voilà, il y a des employés qui touchent 80 000, c'est le prix du mois de loyer au Sénégal. Donc là, si on ne peut pas avoir ce qu'on voit dans notre propre pays, bah, pourquoi pas se voyager.
Lundi, rien qu'en une journée, 10 000 jeunes de 25 à 55 ans, dont la moitié à Dakar, ont déposé leur candidature pour l'une des 370 places de saisonnier agricole en Espagne, dans la cueillette et le stockage des fruits. Un engouement qui a pris les autorités de court et qui désole Mamadou, étudiant en communication venu gagner un peu d'argent en aidant les candidats à remplir leur formulaire.
Le Sénégal ne mérite pas ça, ne mérite pas de perdre des jeunes pour aller servir d'autres pays, au moins venir au Sénégal pour développer ce pays, c'est la moindre des choses.
Moustapha trouve lui que ces visas de 9 mois maximum sont une bonne idée.
Aujourd'hui, je pense que les Espagnols devaient faire focus sur ce genre de programme. Parce que ça lutterait naturellement contre l'immigration clandestine.
Mardi, les autorités ont finalement décidé de suspendre les candidatures papier et promis de créer dans les prochains jours une plateforme en ligne pour recevoir les demandes supplémentaires. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Cet engouement massif, immédiat à l'idée de travailler en dehors du Sénégal, voilà qui devrait aussi interpeller fortement les autorités sur l'état du marché du travail et sur les perspectives des jeunes. C'est en tout cas ce que nous dit Adam Mbeng. Il travaille pour l'ADA, l'Action pour les droits humains et l'amitié.
L'attrait pour ce programme révèle une aspiration légitime à la mobilité internationale, mais témoigne également d'une faillite structurelle dans la gouvernance économique marquée par l'incapacité de l'État du Sénégal à garantir des opportunités viables sur le territoire national. Au-delà du chômage massif, elle révèle également des déficiences systémiques, notamment une inadéquation entre la formation ou les formations dispensées et les exigences du marché de l'emploi. Cette exclusion économique constitue une marginalisation des jeunes et en contradiction avec l'obligation étatique de garantir les politiques publiques inclusives et équitables.
Adam Mbeng de l'Action pour les droits humains et l'amitié, propos recueillis par notre correspondante permanente à Dakar, Léa Lisa Westerhoff.
Et le journal était signé Édouard Dupénoit. Merci Édouard, à tout à l'heure.